Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un épisode véritablement dédié à toutes ces femmes qui s'oublient dans le stress, dans les préoccupations, dans le quotidien des enfants, de la maison, du travail, etc. Eh bien, petit déclic, j'espère pour vous, de se remettre en question, de remettre en question ce rythme de vie et de voir ce qu'on peut y apporter comme amélioration. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Jehane Skhali, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Jehane?
Ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation.
Ben, un plaisir de vous avoir. Merci, un plaisir de t'avoir plutôt. Alors, Jehane, justement, 20 ans dans une carrière avant d'opter pour
Absolument.
Une autre. Alors ça, c'est magique. J'adore ces histoires et surtout quand les deux carrières sont complètement différentes et qu'elles impliquent finalement vraiment de commencer une nouvelle formation, des études, autre chose. Alors, dites-moi, d'abord, marketing, c'est venu comment, cette histoire de marketing?
En fait, tout simplement, j'ai fait une école de commerce, donc l'université Al Hawain, et donc je me suis tout de suite intéressée à cette matière. Voilà, qui m'intéressait parce qu'elle a une dimension un petit peu psychologique de compréhension du consommateur et de son comportement. Et c'est comme ça que par la suite, j'ai opté pour un master pour terminer mes études. Et après, mes premières expériences professionnelles ont porté sur le marketing et c'est comme ça que ça a démarré.
Donc, parcours classique.
Exactement, oui.
Parcours classique, standard, mais tu étais épanouie dans ce que tu faisais?
Absolument, oui, oui. Alors, moi, j'ai travaillé 20 ans, effectivement, dans ce domaine, plus particulièrement dans l'insight et la stratégie de marque. L'idée, c'était vraiment d'aller analyser le comportement du consommateur, de comprendre ses besoins, et ensuite de traduire ça en stratégie business, voilà, stratégie de communication, stratégie d'innovation, d'expansion, de développement business. Et au bout de 20 ans, mon mari a eu l'opportunité de partir au Canada en expatriation et j'ai démissionné, je l'ai suivi. Et ça a été le premier tournant. Pour réfléchir du coup à une évolution professionnelle. Donc, ce que je voulais, c'était d'avoir davantage d'autonomie, de flexibilité, d'indépendance.
Vivre différemment.
Oui, vivre différemment.
Plus de contraintes d'horaire.
Exactement. C'est-à-dire que, en fait, j'étais pas encore prête finalement à changer complètement de métier, mais je voulais une autre forme. Je voulais vraiment avoir davantage être en maîtrise de mon temps.
Ouais,
et, voilà.
Alors, si je peux me permettre, Jehane, pardon, parce que moi, j'interromps beaucoup, en fait. Je pose beaucoup de questions. Cette envie de vivre différemment, de vivre aussi pour toi, d'avoir ton temps, d'être maîtresse de ton temps, alors que tu avais passé 20 ans en boîte, donc marketing, et on sait combien c'est prenant, stressant, autant c'est intéressant que stressant. Est-ce que cette envie, tu l'avais ressentie avant qu'il n'y ait l'opportunité de partir ailleurs? Donc, qui arrivait avec...
Oui,
c'était déjà dans ta tête?
Oui, tout à fait. Ouais, alors, exactement, parce que je sentais que ma santé commençait à en prendre un coup.
Ouais.
C'est-à-dire que les horaires à rallonge, les voyages à l'étranger, le rythme, la pression, etc., commençaient vraiment à m'impacter. Et je réfléchissais déjà à me dire, mais comment est-ce que je peux faire évoluer les choses? Et je voyais bien que mon mode de vie ne convenait pas. J'avais pris beaucoup de poids. Et du coup, je me disais, peut-être qu'il s'agit de faire bouger certains paramètres pour aller mieux et pour... parce que je voyais très bien que c'était pas uniquement une question d'assiette et que il allait falloir agir aussi sur la régulation émotionnelle, sur le mode de vie, etc. Et c'est comme ça que, en fait, cette opportunité est venue au bon moment. Finalement, l'univers envoie des bons signaux parce que ça m'a permis déjà de commencer à ralentir et de faire un petit peu différemment. Voilà.
Ok, en quittant donc, ou avant de quitter ?
C'est venu à point nommé juste avant.
Alors, ralentir
c'était
un peu.
Avant
de quitter déjà, tu avais commencé à ralentir.
Cette opportunité est venue.
Tu t'es sentie comment ? À ce moment-là, quand tu as commencé à ralentir.
C'est-à-dire que quand on commence à finalement équilibrer entre vie pro et vie perso, c'est comme si on recommence à souffler, on recommence à respirer, on est comme en apnée. On est en mode à fond entre la gestion de la maison, la gestion du travail, les enfants en bas âge, etc., on est quand même très, très rapidement débordé et on se demande ce qu'on a et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à tout encaisser, et en fait, à un moment donné, le corps, il dit stop. Donc, ça a été un soulagement, en fait.
Alors, le départ
très
arrive.
Très rapidement, j'ai commencé justement à perdre du poids.
Désenfler, à désenfler naturellement.
Oui.
Alors, on va arriver...
Exactement. Ouais. À partir du moment où j'ai su que j'allais partir, ça a commencé à descendre.
C'est
comme
incroyable.
C'est comme si finalement,
exactement, le fardeau sur les épaules. Je comprends parfaitement. Alors, le départ au Canada, à ce moment-là, tu arrives, ton mari a un job, mais pas toi. Et pourtant, tu as passé 20 ans dans l'effervescence professionnelle. Tu voulais te reposer, tu voulais vivre différemment.
Oui.
Au fond, est-ce que tu l'as aussi bien vécu ?
Oui. Alors, c'est une excellente question.
Pardon.
Effectivement, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. En fait, je m'étais dit, je vais m'accorder déjà une pause professionnelle pour installer tout le monde, pour faire en sorte que, que la maison soit bien, que les enfants soient casés, etc. Et ensuite, j'ai commencé à réfléchir, et c'est vrai que c'est une angoisse. Mon mari va à son travail, mes enfants sont à l'école, et moi, qu'est-ce que je fais ? Donc, c'est vrai que j'ai pris du temps pour, me reposer, réfléchir. Et puis ensuite, donc, la première chose, c'est que j'ai pris une formation. Je me suis dit, tu restes pas sans rien faire, tu vas ruminer, tu vas te dire, tu vas te poser 10 000 questions, etc. Et c'est vrai que c'est porteur d'angoisse, on n'a pas l'habitude. Quand on a bossé autant et aussi fort, se retrouver du jour au lendemain avec des journées vides, c'est dur à encaisser, c'est dur à gérer. Donc il faut pouvoir aussi gérer cette liberté. C'est ça ce que j'ai trouvé le plus dur. Donc, pour structurer mes journées, j'ai pris une formation. Et petit à petit, les idées sont venues. Et puis ensuite, j'ai décroché, une mission de consulting. Et là, j'ai été soulagée. Parce que du coup, je faisais ce que je savais très bien faire, mais je le faisais autrement. Et ça m'a sauvée. Et puis, ça m'a permis du coup d'accomplir... ce que j'avais envie de faire, en tout cas dans un premier temps.
Alors, c'est magnifique parce que tu parles de liberté, mais tu dis qu'est-ce qu'on en fait de cette liberté qu'on a tellement attendue, que tu as justement tellement voulu, mais une fois qu'elle est là, qu'est-ce que j'en fais ? Je ne sais pas, moi, vivre avec autant de liberté, d'une, et de deux, structurer son temps, en fait. Parce que, mine de rien, quand on a un boulot fixe, en entreprise, même si on déteste la rigueur du temps, mais au fond, ça structure la journée, pas forcément de la bonne manière, mais ça met un cadre, comme l'école pour les enfants, etc. Et toi, tu abordes ces deux points, c'est magnifique, parce que beaucoup de femmes ont envie de changer de cap de vie, mais ne savent pas à quoi elles peuvent être confrontées en réalité, au départ, je dis bien au début.
C'est que finalement, on passe son temps à fantasmer quand on est salarié. On fantasme sur l'entrepreneuriat, on fantasme sur cette liberté. Et puis finalement, quand on est face à soi, eh bien, on se rend compte que c'est pas si simple, parce que d'abord, on a été formaté pendant des années à suivre des ordres, à respecter un cadre, à respecter des horaires, à travailler avec d'autres personnes. Et là, soudainement, on est seul, on doit décider ce qu'on fait, on doit décider de l'orientation, on doit décider de sa propre stratégie, on doit trouver ses clients, on doit... C'est-à-dire que finalement, c'est pas aussi simple. Et on n'y est pas préparé, mais j'ai trouvé que c'était une excellente expérience, parce que du coup, ça permet au moins d'essayer et de voir si oui ou non, on a envie de ça ou pas. Donc, moi, j'encourage vraiment aux personnes qui ont envie de d'essayer l'entrepreneuriat, enfin, de ne pas rester avec ce regret et de se dire, voilà, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas? Ça ne convient pas à tout le monde, hein. Ça, c'est une certitude.
Quand tu dis ça convient pas à tout le monde, dans quel sens?
Ben, c'est-à-dire que il va y avoir des gens qui vont finalement essayer et se plaire dans ce nouveau mode de vie, et d'autres qui ne vont pas s'y faire, hein, parce que il faut pas croire, c'est aussi beaucoup de solitude, et notamment moi c'était en tout cas dans un contexte Covid, c'est-à-dire que 6 mois après notre arrivée au Canada, c'était le Covid. Du coup, je me suis retrouvée à faire du télétravail seule derrière mon écran, à ne voir personne toute la journée. Bon, c'est quand même un vrai challenge. Et puis surtout, il faut avoir ce côté self-starter, c'est-à-dire ne pas attendre de directive, être vraiment, c'est là qu'on éprouve en fait sa capacité de leadership, son self-drive, etc. Donc c'est pas évident.
Alors aujourd'hui, ce que tu fais, c'est que tu accompagnes les personnes avec des troubles alimentaires, nutrition et bien-être. À quel moment tu as décidé de sortir complètement du marketing, parce que même quand tu étais au Canada, tu as continué comme tu l'as dit, à faire des missions en freelance. À quel moment tu as décidé de passer à autre chose, complètement autre chose?
En fait, ça a été au retour au Maroc. Au retour au Maroc, je ne me voyais pas nécessairement continuer dans le conseil, parce que j'estimais que, voilà, que le contexte, en tout cas le marché... n'est pas suffisamment, on va dire, attractif pour ce type d'activité, le marché trop étroit. Et parallèlement, je continuais à, me questionner sur la façon de faire évoluer ma santé, etc., parce que je n'étais pas encore au bout de mes peines. Et j'ai repris un boulot salarié en arrivant au Maroc pour temporiser et continuer de réfléchir. Et dans le même temps, j'ai trouvé une formation en nutrition. Et en fait, ça a été le déclic, parce que j'ai pu vraiment comprendre un petit peu comment appréhender finalement la nutrition de façon beaucoup plus globale. C'est-à-dire en m'intéressant à la fois aux émotions, aux comportements, finalement au vécu de la personne. Et ça a changé complètement de ce que j'avais pu expérimenter en allant voir des diététiciens, des nutritionnistes, etc., qui finalement vont vous orienter plutôt vers structurer votre assiette, etc., des régimes, mais qui finalement se soldent par des échecs. Et donc, c'est voilà, en partant de ma situation personnelle, que je me suis dit à un moment donné, super, cette formation, elle est géniale, j'ai appris beaucoup et je vais peut-être pouvoir redonner. Et c'est comme ça qu'est née l'idée finalement d'en faire carrément mon métier.
Alors, est-ce qu'on peut parler de ta situation personnelle, justement?
Voilà, ça s'est fait finalement par étapes, oui. C'est-à-dire aujourd'hui, en termes de santé?
Absolument.
Oui, aujourd'hui, ça va effectivement beaucoup mieux, parce que grâce à cette formation, j'ai déjà pu m'appliquer à moi-même tous ces préceptes et tout ce que j'ai compris. Et puis, c'est une formation aussi qui permet de se former au coaching. Et c'est la raison pour laquelle, je me suis sentie il y a 2 ans prête à transmettre, en fait.
Alors, parce que tout à l'heure, tu as parlé de ta situation de santé, enfin, tu y as fait allusion sans rentrer dans les détails, en disant, quand je suis revenue du Canada, je n'étais pas encore sortie d'affaires. Et puis, je suis tombée sur cette formation, d'abord pour moi. Est-ce que c'était toujours les mêmes problèmes, problèmes de poids? C'est ça que tu as évoqué en début d'interview par rapport au stress que tu vivais en entreprise?
Oui, tout à fait. C'était les problèmes de poids donc, qui revenaient, puis qui étaient revenus de plus belle pendant le Covid. Et puis, doublé de, on va dire, de soucis digestifs, intestinaux, etc. Ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Et on ne se rend pas compte à quel point, effectivement, la nourriture et ce qu'on met dans son ventre tous les jours impactent à la fois la santé physique, mais aussi l'humeur, le microbiote, etc. Donc, j'avais fait le tour des médecins, on n'arrivait pas à comprendre ce que j'avais. C'était des douleurs, on va dire, chroniques, et que dont je n'arrivais absolument pas à me débarrasser. Donc c'est à la fois une question de gestion stress, de mode de vie, etc., mais aussi de soigner la qualité de son alimentation au-delà de la quantité.
C'est ça, au-delà de la quantité. Alors. En lançant, donc finalement, tu en as fait ton métier, tu as ouvert un cabinet. Et ça, c'est de l'entrepreneuriat aussi. C'est se lancer à nouveau dans quelque chose. Avoir ta propre patientèle, etc. Est-ce que tu as mis en place des mécanismes de ton ancienne vie professionnelle dans cette nouvelle aventure professionnelle?
Ah oui, carrément. C'est-à-dire que c'est là où on se dit, on ne démarre pas nécessairement de zéro. C'est que finalement, il y a beaucoup de compétences, on va dire, transverses et transposables à d'autres métiers qui n'ont apparemment rien à voir. Typiquement, quand je travaillais par exemple sur l'Insight, c'était vraiment de décortiquer ce que disaient les gens et en fait les traduire en stratégie. Et là, c'est un petit peu pareil. Dans mes séances de coaching, je vais écouter ce que les personnes disent. Donc, c'est vraiment des qualités d'écoute. Et puis derrière, je vais décider à partir du matériau qu'on me donne, une stratégie d'accompagnement pour la personne. C'est aussi, par exemple, j'ai pu reprendre l'animation d'ateliers, par exemple. Je suis formée en design thinking, j'ai animé des ateliers pour penser des stratégies marketing et travailler aussi sur des projets d'innovation, etc. C'est la même mécanique quand on travaille avec des personnes, quand j'anime aujourd'hui des ateliers autour de la nutrition, autour de la régulation émotionnelle, etc. C'est les mêmes principes. Et après, il y a aussi toute la gestion marketing, on va dire, communiquer sur son activité, construire sa marque, son positionnement, etc. Et ça a été effectivement extrêmement utile aussi pour ma propre marque qui est Itsmart. Voilà.
Alors, par rapport à ça aussi, c'est démarrer dans un autre domaine, à un âge où on n'est pas forcément toute jeune, on n'est pas non plus... Voilà, on est autour de la quarantaine même passée parfois. Est-ce que c'est compliqué de redémarrer à nouveau à cet âge-là et finalement d'être dans l'inconnu et être sorti avec toute la difficulté du salariat, être sorti de la difficulté du salariat, mais en même temps le confort du chiffre qui descend à la fin du mois, démarrer autre chose dans l'inconnu, devoir se faire un nom, faire ses preuves, se faire une réputation, tout redémarrer à zéro. Même si, tu l'as dit tout à l'heure, on ne reprend jamais à zéro, c'est vrai. Mais toi, tu es passé quand même d'un domaine à un autre. Tu as ramené une forme d'expertise avec toi que tu utilises aujourd'hui. Mais en tant que professionnel, tu es passé d'un domaine à un autre.
Oui, effectivement, j'ai démarré dans un domaine où personne ne me connaît, où personne ne m'attend. Alors, on démarre quand même avec un réseau, donc on ne démarre jamais de rien. Mais néanmoins, il y a une crédibilité à installer, il y a quand même une visibilité à construire, il y a le bouche à oreille, il y a beaucoup de choses et oui, c'est absolument loin d'être facile, c'est un vrai challenge. Maintenant, je dirais l'âge n'est pas nécessairement un frein, au contraire, on a une certaine maturité professionnelle, une certaine seniorité qui permet d'avoir une assise, qui permet justement d'être plus crédible, hein, quel que soit le métier auquel on s'attaque. Les gens vous font davantage confiance, voilà. Après, ce qui va peut-être créer un doute, c'est le fait de se sentir peut-être parfois sur certains sujets un peu dépassé. Je dirais par exemple sur le marketing digital, c'est pas toujours super facile. Il faut se mettre à jour, etc. Et du coup, il faut pas avoir peur de se former en continu pour rester à la page et pour être donc en ligne avec son temps, tout simplement.
Alors aujourd'hui, comment va ta santé?
Alhamdoulilah, vraiment beaucoup mieux. J'ai atteint une forme d'apaisement et c'est ce que je souhaite à toutes les femmes. C'est vraiment, et c'est la raison pour laquelle justement j'en ai fait ma niche privilégiée. Donc les femmes débordées, qui travaillent et qui ont à un moment négligé en fait leur santé, leur hygiène de vie, à cause de leur charge mentale. Et qui se sont pas nécessairement priorisés, et voilà, qui sont rattrapés, on va dire, par des soucis de santé. Donc, c'est ce genre de personnes que je vais particulièrement aider à retrouver un équilibre et apaiser leur relation à la nourriture, parce que quand on fait des régimes à répétition, le yo-yo, etc., ça détraque un petit peu le métabolisme, et puis ça entretient une espèce de cycle restriction, compulsion, culpabilité vis-à-vis de la nourriture qui n'est pas très sain. Je vois beaucoup de femmes lutter continuellement pour retrouver le poids de leurs 20 ans ou de leurs 30 ans. Et c'est vrai que ce sont des injonctions sociales qui nuisent finalement aux femmes, alors qu'elles pourraient être très bien dans leur tête sans nécessairement atteindre, on va dire, ce poids idéal. Donc, bien sûr, il y a un seuil au-dessus duquel peut-être on va pas être bien, on va être essoufflé, on va pas pouvoir faire du sport, on va avoir des soucis de mobilité, etc. Mais il y a peut-être un entre-deux dans lequel on se sent bien et on arrête d'être esclave du regard des autres et du jugement des autres.
Voilà. Et d'autant plus, en fait, que ces femmes passer la quarantaine, qui cherchent encore à avoir la taille de leur vingtaine, c'est très compliqué avec aussi cette périménopause ou parfois même cette ménopause qui s'installe.
Absolument. Hier encore, j'avais un appel d'une dame justement qui a pris 10-15 kilos à l'approche de la ménopause et qui était complètement affolée. Mais dans le même temps, quand on va creuser, on va voir qu'elle n'a pas, qu'elle ne fait pas d'activité physique, qu'elle n'a rien changé dans sa façon de manger, etc. On ne peut pas s'attendre effectivement à garder la ligne lorsque on mange autant qu'avant, alors que nos besoins ont baissé avec l'âge et qu'on ne fait absolument pas d'activité physique. Donc c'est une personne qui avait l'habitude de courir, etc., et puis qui ne fait plus rien, qui est sujette au stress aussi, le cortisol fait stocker. Du coup, clairement, mécaniquement, là, elle a pris du poids. Donc, il faut se dire qu'à l'approche de cet âge, il faut davantage prendre soin de soi, être davantage dans une logique où on redouble d'efforts, et notamment au niveau de l'activité physique, du renforcement musculaire, parce que ça permet de soutenir son système hormonal et ne pas tomber dans ces pièges
En tout cas,
classique.
Classique, absolument. Merci infiniment, Jehan Skhli, d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Eh bien, merci Yasmine pour l'invitation, ça a été un plaisir. Et voilà, j'espère que ça éclaire beaucoup de femmes, à la fois sur, en tout cas, leur désir de changer de voie et de faire évoluer leur situation professionnelle, et puis de prendre soin d'elles-mêmes et de s'apaiser face à la nourriture.
Merci beaucoup. Merci infiniment, Jehan. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.